Bonjour, je suis David Manise, anthropologue, instructeur de survie et mouton à cinq pattes professionnel. Vous écoutez le podcast Le Survivologue, épisode 38. Aujourd'hui, je suis avec Clémence Marc, qui nous fait l'honneur d'une petite visite à la maison et qui a vachement de trucs intéressants à raconter. Elle est sur plein de projets à la fois. Du coup, salut Clémence.
Salut David.
On n'est pas encore à l'apéro. Du coup, normalement, on ne va pas dire trop de bêtises. Est-ce que tu voudrais bien te présenter et dire un peu ce que tu fais et pourquoi?
Bah déjà, merci pour l'invitation et bravo pour ton super podcast.
Merci.
Donc, par où commencer? Moi aussi, je suis un mouton à cinq pattes.
Ouais.
Donc, je suis docteur en pharmacie de formation. Donc, je travaille beaucoup sur les questions de médicaments. Et là, en l'occurrence, je suis en train de terminer un livre qui va bientôt sortir sur les pénuries de médicaments.
Yes.
J'ai beaucoup travaillé en fait avec l'industrie pharmaceutique, donc je connais bien les ressorts de ce secteur. Ensuite, je suis également réserviste militaire, donc je travaille au service de santé des armées, pour lequel actuellement je suis conseillère risque et résilience. Donc en fait, je m'occupe de préparer nos antennes médicales aux différents types de crises qui pourraient advenir, donc m'assurer qu'elles sont bien résilientes et que quoi qu'il arrive, elles pourront continuer de fonctionner.
Toujours dans une optique de potentiel conflit symétrique dans les prochaines années, du coup.
Alors, non, pas encore. Pour l'instant, je m'occupe de la résilience globale, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de conflit pour qu'il nous arrive une merde.
Oui, bien sûr.
Donc, pour l'instant, on est plutôt sur de la résilience générale, donc tout ce qui peut être rupture de réseau, rupture d'électricité, eau contaminée et tout ça. Donc, l'idée, c'est d'identifier tous les risques potentiels et de s'y préparer au mieux.
Et du coup, les armées se préparent à des risques comme ça, comme nous, en fait.
Ouais, on est plutôt bien préparé. Cool. En tout cas, tous les sites militaires travaillent pas mal sur ces scénarios.
Yes.
Et dans un deuxième temps, effectivement, il y aura aussi la question de en temps de guerre. Pour l'instant, on se prépare en temps de paix pour assurer de la résilience, et après, on verra comment est-ce qu'on fonctionne en temps de crise.
Cool.
Attends, je me fais le tri dans ma tête. Donc, je vais bientôt être chercheur en Suisse. Donc, moi, je vais travailler sur ce qui me botte, c'est-à-dire ce que je viens de te décrire.
Ouais.
C'est-à-dire comment est-ce qu'on se démerde en temps de crise. Et en l'occurrence, je vais m'intéresser particulièrement à la première ligne de soins.
Ouais.
Donc, comment est-ce qu'on fait pour que la première ligne de soins, donc qu'on peut définir comme tout ce qui est pré-hospitalier, tout ce qui va être en ville, les pharmacies, les médecins généralistes, les spécialistes de ville, les infirmiers, les kinés, tout ça. Comment est-ce qu'on peut les préparer et les adapter à des situations de crise pour s'assurer qu'ils puissent continuer de fonctionner en mode dégradé.
Yes.
Et donc que derrière, les patients n'aillent pas submerger l'hôpital qui lui-même sera peut-être dans une situation un peu critique.
Ouais.
Donc ça, c'est le projet de recherche que je vais conduire pendant les 3 prochaines années en Suisse.
Trop bien. Ou en Suisse, dans quelle fac ?
Unisanté. Une structure qui s'appelle Unisanté, qui est un peu particulière. Il paraît qu'il n'y en a que 2 dans le monde, des comme ça. Puisque ça inclut une structure de soins, mais de soins communautaires, de soins de première ligne, avec de la recherche et de l'enseignement.
Génial.
Qui sont des activités qui sont traditionnellement associées à des activités hospitalières.
Bah,
en général, c'est les CHU qui ont des dimensions enseignement et recherche. Ouais. Et donc là, c'est une structure de soins, mais communautaire, donc avec plein de petits centres de santé, avec de l'ambulatoire, en fait.
Ouais, trop bien, en mode décentralisé, quoi.
Voilà, et puis ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu as beaucoup de chercheurs qui ont un pied dans la pratique aussi. Donc, tu as des chercheurs pharmaciens qui ont aussi une pharmacie, tu vas avoir des chercheurs médecins qui exercent et qui en même temps font de la recherche.
Ah ouais, c'est top.
Donc c'est une structure qui est hyper intéressante. Et puis surtout, c'est une structure qui, de mon point de vue, est assez visionnaire, puisqu'elle a envie de travailler sur la question des risques systémiques et de la préparation des structures de soins aux crises à venir.
Trop bien.
Voilà.
C'est effectivement visionnaire et lucide, je trouve, parce que si on observe un peu les tendances, il y a quand même... ça leur donne raison, quoi.
Ah, mais complètement. Complètement. Et malgré ça, en fait, il y a encore beaucoup de retard. Il y a des choses, ça fait 10 ans qu'on aurait dû s'y préparer.
Mais toi, tu t'y prépares. en tout cas, tu y réfléchis depuis longtemps. Et ta dernière casquette que tu n'as pas nommée, c'est quoi ?
Non, c'est marrant que tu dises ça, parce que je disais il n'y a pas longtemps qu'il y a 10 ans, quand je disais à mes potes que je me préparais à une coupure d'électricité pour un week-end, un truc comme ça, tout le monde se foutait de ma gueule. Et que maintenant, on va me payer pour ça, en fait.
Mais ouais, c'est génial.
pour travailler là-dessus. Et du coup, ça a un côté assez rigolo. Et ma dernière casquette, c'est... Donc, je suis présidente d'une association qui s'appelle Adrastia, qui est une association qui a fêté ses 10 ans l'année dernière, donc de citoyens, qui a été fondée en 2014 par pas mal de personnes, dont Vincent de Miguereau, Joël Lecomte, Laurent Ayer, etc., plein d'autres. Donc c'est une association qui s'intéresse à tout ce qui est risque systémique, et notamment risque d'effondrement des sociétés complexes. Donc cette association, elle a trois objectifs, elle s'est donné trois missions en fait. La première, c'est d'informer sur ces risques-là. Et j'ai envie de te dire que ça a été un peu la première phase de vie de l'asso, parce qu'il y avait vraiment besoin, et qu'on a peut-être changé un petit peu de phase, on reviendra là-dessus après. La deuxième mission qu'elle s'est donnée, c'est d'accompagner la prise de conscience. Donc notamment, c'est Adracia qui a diffusé pour la première fois en France au tout début ce qu'on appelle l'échelle de Schefurka. Donc Paul Schefurka, qui est un Canadien, qui a créé, si je me rappelle bien, en 2012, une échelle de prise de conscience qui explique en fait les cinq niveaux. Le cinquième étant le niveau ultime auquel tu prends conscience de l'ampleur du désastre et où tu prends une claque assez monumentale en général. Et donc, elle vient de là, cette mission accompagnée, c'est de se dire comment est-ce qu'on serre les coudes et qu'on prend soin les uns des autres au sein de l'asso quand on prend cette claque-là. Et la troisième mission, c'est promouvoir. C'est la mission qui est probablement un peu la plus floue. C'est de se dire comment est-ce qu'on peut essayer de donner de la visibilité à des choses qui nous semblent être utiles. Et c'est pas simple parce qu'on a la volonté de pas du tout être prescripteur dans l'asso. Ça, c'est hyper important pour nous. Parce que quand on appréhende bien le niveau de complexité que représentent les effondrements, ça révèle un tel niveau d'incertitude que ça devient difficile de rester en accord avec nos valeurs, et notamment une qui est hyper chère à Dracia, qui est la rigueur scientifique, et de dire « ouais, nous, on sait que ça va marcher, tu vois. » On ne sait pas bien ce qui va se passer. C'est toujours très délicat d'aller sortir. Ouais, on est sûr que... Donc, on marche un peu sur des œufs avec cette troisième mission. Et on essaie d'être un peu pragmatique en se disant qu'on part du principe qu'on sélectionne, entre guillemets, ce qui peut pas faire du mal au présent, tu vois. Parler de, j'en sais rien moi, d'agroécologie ou de permaculture ou de choses comme ça, on se dit globalement, même si peut-être que ça suffira pas et tout, en attendant, ça peut pas faire de mal. On est sûr que ça fait du bien. Donc c'est pour ça que c'est une mission qui est un petit peu floue, mais qui est en train de se développer.
C'est rigolo parce que, excuse-moi, je te coupe, mais je rebondis, j'ai finalement adopté exactement la même approche quand je parle de résilience anticipative, c'est-à-dire que je me débrouille pour que les trucs que j'enseigne soient utiles au quotidien, même si c'est pas la crise, en fait. Et que ça permette d'acquérir des ressources, des compétences, une condition physique, une manière d'approcher le réel, une robustesse ou une antifragilité psychologique, qui vont permettre de faire face à des crises, mais qui favorisent la qualité de vie et le bien-être maintenant. Et du coup, ça, au pire, ça fait pas de mal, tu vois. Premièrement, ne pas nuire, comme on dit. Et puis, deuxièmement, je trouve que c'est hyper satisfaisant parce que on se retrouve à vivre des trucs et à se préparer à des choses qui sont hyper satisfaisantes et qui donnent, qui créent un sentiment d'entraide, de communauté, de bien-être, de machin qui est hyper agréable tout de suite, quoi. Du coup, si on doit s'effondrer comme ça, moi ça me va, tu vois. Au moins, on va bien s'amuser, tu vois.
Ouais, toute la boîte de Pandore avec ça. Oui. Parce que c'est, enfin, tu vois, si je dois te résumer un peu comment est-ce que moi mon parcours il s'est déroulé. Je pense que le moment charnière, ça a été le moment où, après une phase de panique un peu, genre, oh là là, comment on a pu en arriver là, etc. Le moment charnière, ça a été, il n'y a plus que l'instant présent qui compte.
Ouais.
Et ça a été ça, en fait. Hein. C'était...
le carpe diem, quoi.
Ouais. Le carpe diem sans pour autant faire n'importe quoi. Et c'est marrant parce que, du coup, je suis un peu hyperactive et hyper curieuse, donc j'ai envie de faire 50 000 trucs et tout, mais la limite que je m'étais posée, quand je me suis vraiment engagée, tu vois, dans une démarche de préparation, c'était de ne jamais faire un truc qui m'emmerde pour un futur qui, malgré tout, reste hypothétique.
Ouais.
Et c'est-à-dire, pas me dire, oh là là, ce truc-là, ça me saoule, mais je vais quand même développer la compétence parce que je pense que dans un monde effondré, ce sera important et tout ça. Tu vois, ça, je le fais pas.
Ouais, ouais.
Parce que malgré tout, il y a toujours des incertitudes. Et puis, de toute façon, peut-être que je vais me faire écraser par un bus avant,
bien sûr.
Avant d'avoir besoin de cette compétence-là. Et ce serait quand même dommage d'avoir gâché des heures de vie à faire un truc qui m'emmerde. Tu vois.
C'est clair.
Et donc, du coup, je fais le ménage comme ça. Puis de toute façon, il y a déjà trop de trucs qui m'intéressent de base, donc largement de quoi m'occuper. Mais ça, tu vois, ça, c'est un conseil que j'ai souvent donné à plein de gens qui me disent quoi faire, et je leur dis, mais fais ce que t'aimes, en fait. Et alors, peut-être, dans ce que t'aimes, fais le tri de ce qui serait vraiment utile, tu vois, de ce qui est pragmatique, de ce qui est low-tech et tout ça. Tu vois, si tu aimes faire du karting, bon, ce n'est pas l'essentiel, tu vois. Mais parmi ça, choisis vraiment les trucs qui te plaisent, c'est-à-dire de ne pas partir d'un besoin et de se dire, il y a besoin de savoir si, ça, ça, ça.
Ce qui reste hypothétique, de toute façon.
Voilà, ouais, ça reste hypothétique. Et puis, de toute façon, ce sera collectif. Et donc, les compétences que tu n'as pas, il y en a d'autres qui les auront et tu ne seras jamais meilleur que dans les trucs que tu aimes, en
C'est
fait.
ça.
Et en plus, au passage, ça ne te pourrira pas ton présent, ce
Bah
qui est quand même un peu important.
ouais. C'est génial.
Donc, ouais, carrément d'accord avec toi que faut sentir, en fait, hein, c'est ce qui nous rend heureux au quotidien. Et puis, bon, si ça peut être utile demain, tant mieux. C'est bonus, quoi.
Comment t'as appris la mauvaise nouvelle? Comment t'as été exposé à l'idée que bon, le monde il est un peu en train de s'effondrer, qu'il y a plein de complexités, de fragilités systémiques et écosystémiques et tout ce que tu veux, et que fort probablement ça va se casser la gueule ou que notre qualité de vie va diminuer fortement, voire notre espérance de vie. Comment t'as appris, tu vois, où est-ce que t'as capté ça?
Ça me fait rire parce que c'est un peu de ta faute.
Ah merde.
Tu le sais, non?
Non, je savais pas.
Ben, c'était mon premier stage avec le 7, fondamentaux, mai 2015. Et c'était mon binôme, Max. Salut Max, si tu nous écoutes d'ailleurs. Petit coucou, on pense à toi. Qui m'a lâché, ça devait être au moment de l'apéro. Ah, tu connais pas Jean Covici? Et voilà.
Et là, t'as
Et
commencé à creuser.
ben, d'abord, on a terminé le stage, mais après, quand je suis rentrée, j'ai dit, c'est qui ce gars? Et donc là, bah, du coup, je suis passée. En plus, c'était une période où professionnellement, j'étais indépendante et du coup, potentiellement, j'avais du temps. Et donc là, je suis passée dans une phase de boulimie littéraire. Donc j'ai commencé par écouter et lire Janco. Et puis, c'était peu de temps après la sortie de L'âge des low-tech de Philippe Biwix. Et puis après, il y a le bouquin de Pablo qui venait de sortir, que j'ai lu un peu après. Il y avait le petit traité de résilience locale de l'Institut Momentum. Et du coup, en l'espace de juste 2, 3 mois, hein, je me suis mangé
Ouais, tu t'es pris
une
un bus,
quantité.
quoi.
Ouais, et en même temps, tu connais ma propension au doute. Et donc, au fur et à mesure que j'avançais, je me disais, putain, c'est pas possible. En fait, à chaque fois, je me disais, comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Comment est-ce qu'on a pu, collectivement, hein, sociétalement, ne pas réagir avant d'arriver à une situation d'une telle gravité? Et pourtant, la réponse, elle était simple. Hein, elle est hyper simple. Comment moi, j'ai pu arriver jusqu'en 2015 sans savoir tout ça? C'est juste que c'est même pas que je m'en foutais, c'est juste que
Je savais pas qu'il
j'étais
fallait s'y
occupée à autre
intéresser.
chose.
Non, bien
Voilà,
sûr.
voilà. Tu vois, enfin, je m'intéressais pas spécialement à l'écologie, ni au climat, ni rien. Tu m'aurais posé la question à l'époque, je pense que comme tout le monde, j'étais ce qu'on peut pas être vide, donc j'étais remplie de croyances par défaut. Le truc, le changement climatique, ouais, c'est grave, mais on s'en sortira. Et puis honnêtement, frileuse comme je suis, quelque part, je me disais, bon, c'est pas plus mal, hein, quelques degrés de plus, tu vois, je me gèlerai un peu moins en hiver. J'avais juste zéro conscience de ce que c'était que le changement climatique, tu vois, dans toutes ses facettes et tout.
Et la complexité des interactions du problème, quoi.
Mais alors ça, et en fait, parce que enfin, je bossais beaucoup trop, tu vois. Enfin, avant, j'étais consultante, même dans l'industrie, je bossais 1000 fois trop. Et c'était la première fois de ma vie que je ralentissais. Et donc, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui croient que j'ai commencé à faire des stages de survie parce que j'ai commencé à flipper, alors qu'en fait, c'est complètement l'inverse. C'est à cause d'un stage de survie que j'ai découvert l'état du monde. Parce que les stages de survie, c'est moi qui suis hyper fan de débrouille, c'est des choses que je voulais faire depuis très longtemps. Et à ce moment-là de ma vie, j'ai commencé à avoir du temps et je me suis dit, je vais arrêter de repousser des choses et ça, je vais le faire. Et pour la petite anecdote, c'était un médecin, un néphrologue parisien que j'avais rencontré au début des années 2010. Je ne sais plus pourquoi, en déjeunant tous les deux, il m'avait dit, on parlait de stage de survie, je lui ai dit que ça faisait longtemps que je voulais le faire et il m'avait dit, le jour où tu vas le faire, tu le fais avec le 7. Si je me rappelle, il m'avait écrit CETS sur le coin de la petite serviette du resto. Et j'avais gardé ça en tête. Et tu vois, parce que c'était au moins 3 ou 4 ans avant. Et le jour où j'ai eu du temps, je me suis dit, allez, j'attaque,
Génial.
je fais mon premier stage et tout ça. Et donc, ça a été cette phase-là. Et tu vois, arrivé à l'été, j'avais déjà décidé de quitter Paris, me mettre en quête d'un boulot pour rentrer chez moi, etc. Donc, ouais. Ça a été une claque monumentale parce que je ne m'étais jamais intéressée à ces sujets-là. Et donc, j'ai tout mangé d'un coup.
Et avec zéro déni, quoi. T'as...
Non, et je pense que c'est ça qui est un peu violent pour les profils comme moi, comme j'ai une très faible propension au déni, j'ai tout pris dans la figure sans aucune barrière de protection. Ouais. Donc j'ai switché de complètement naïf sur ces sujets à effondriste au dernier stade en l'espace de 2-3 mois, je pense.
Ouais, chaud quoi.
Et ouais, chaud. Et du coup, ça a activé plein d'angoisses, plein de choses et tout ça. Mais en même temps, il y a eu ce petit mécanisme où je me suis dit maintenant, carpe diem. Et donc, j'arrête de repousser à plus tard tous les trucs qui me tenaient à cœur, à commencer par rentrer chez moi,
ben oui, bien sûr.
Quitter Paris, me rapprocher de la famille, des gens qui comptent et tout ça. Et puis, ça a été le début
après
d'un
long
chemin.
Coup.
Et de la nature. Et puis, du coup, bah, c'est à cette époque-là que j'ai... Tu vois, c'était dès l'été 2015 que j'ai commencé à découvrir Adrastia au travers des premières conférences de Vincent Mignot qui avaient été publiées sur YouTube, « Construire un déclin ». Et voilà, donc j'avais connu et je me suis rapprochée de l'assaut, je trouvais intéressant. Je trouvais à la fois intéressant son niveau de conscience hein, sur l'état des choses, sa vision systémique, parce que c'est ça qui fait la différence avec toutes les autres organisations qui fonctionnent en silo. Donc tu vas être celles qui sont hyper pointues sur l'effondrement de la biodiversité, d'autres sur le climat et tout ça. Et en fait, Adrastia, bah, c'est quand tu mélanges tout ça, qu'est-ce que ça donne
Avec une vraie approche complexe, je trouve. Ouais. Et ça, je l'ai pas vu à beaucoup d'endroits. Et c'est une des raisons qui faisait que j'avais envie qu'on discute aujourd'hui, parce que t'as, je pense, moi, c'est les théories et les sciences de la complexité, c'est un truc qui me fascine depuis 25 ans, et je sens dans ta compréhension des sujets une vraie finesse de compréhension sur la complexité, les interactions entre les éléments, les interactions entre les systèmes, et quand on mélange tout ça, comme tu dis, qu'est-ce qui va émerger comme comportement du système, quoi. Et c'est hyper intéressant parce que c'est exactement le genre d'outil dont on a besoin aujourd'hui pour arrêter de trop déconner, déjà, premièrement. Réduire le... Enfin, je ne sais pas si ça peut encore avoir un impact, mais au moins comprendre ce qui est en train de se passer et comprendre à quel endroit on peut se positionner pour ne pas être en plein dans la trajectoire la plus dangereuse, tu vois. Moi je pense qu'il n'y a plus vraiment de solution, tu vois. Je pense qu'il n'y a plus vraiment de solution pérenne où tout va bien aller, machin, et on fait du damage control aujourd'hui. Et je vois en parallèle plusieurs effondrements. Il y a l'effondrement évidemment de la biodiversité et de nos écosystèmes qui est vraiment aujourd'hui palpable, je trouve. Il y a un effondrement économique pour en tout cas l'Europe qui est vraiment pas encore très sans enfin on s'en rend pas vraiment directement compte parce que on vit encore un peu, on est un peu assis sur nos lauriers, on vit un peu sur nos économies et sur le fait que les banques nous prêtent encore, mais je pense que d'ici 20, 30, 50 ans ça va être vraiment vraiment beaucoup moins cool de vivre en Europe.
Je suis optimiste.
Et un effondrement aussi du tissu social, tu vois, que je vois se déchirer par endroits, que je vois plein de clivages, je vois plein d'endroits où ça peut se déchirer, ça peut devenir vraiment compliqué de fonctionner ensemble. Et du coup, c'est un peu mes trois sujets de préoccupation du moment. Bref, qu'est-ce que t'en penses?
Les textes fondateurs, un peu, la pensée d'Adrastia. C'est alors bien sûr le rapport Meadows, donc rapport au Club de Rome, pour ceux qui ne connaîtraient pas 1972, et notamment la pensée systémique de Donella Meadows, donc tout ce que tu décrivais, c'est-à-dire ce en quoi c'est révolutionnaire, c'est que ça rajoute la pensée des interactions.
Ouais, ça.
Dans une société où on pense de plus en plus en silo, et quelque part on n'avait pas le choix, parce qu'arrive un moment où le niveau de complexité est tel. Fait que tu ne peux plus avoir une vision globale. Tu prends l'exemple de la médecine. On a accumulé tellement de connaissances que c'est déjà difficile, en fait, d'avoir le bon niveau de connaissance pour être un bon spécialiste, pour être un bon cardiologue. Et même chez les cardiologues, ils se sont divisés en sous-spécialités, pareil chez les endocrinos et tout ça. Et donc, parce que c'est plus accessible au cerveau humain, en fait, le niveau de compétence et de connaissance. Et donc, en fait, du coup, on subdivise tout et on peut passer à côté de l'essentiel, hein, qui sont les interactions entre tout ce qu'on a redivisé. Et c'est pareil dans nos sociétés, en fait. Et un autre livre fondateur, c'est L'effondrement des sociétés complexes de Tainter. Donc si jamais vous ne connaissez pas ça, surtout lisez-le, c'est absolument génial. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est réétudier des effondrements passés au travers d'un prisme qui est la théorie des rendements marginaux décroissants de la complexité. Et donc, en fait, comment est-ce que c'est la complexité, en fait, qui fait effondrer les sociétés complexes? Comment est-ce que le niveau de complexité grandit? Donc, l'exemple que j'aime bien donner, c'est quand tu commences à changer d'échelle, c'est tu passes d'un monde où tu as le paysan qui nourrit son voisin. Et au fur et à mesure qu'ils sont de plus en plus nombreux, bah, tu as le paysan, puis tu vas en avoir un autre qui va aller vendre au marché. Toujours au voisin, et puis après tu vas augmenter les niveaux de complexité, tu vas commencer à rajouter de l'industriel qui va transformer au milieu, puis de la chaîne de distribution, etc. Et à chaque fois que tu rajoutes, tu as toujours la même production qui repose sur un paysan, sauf qu'il faut que toute la chaîne se fasse du blé au passage. Et donc ça, c'est applicable à toutes les dimensions de notre société. Et donc à chaque fois que tu rajoutes une couche de complexité pour gérer le changement d'échelle, bah, ça a un coût. Et puis au bout d'un moment, tu dois rajouter aussi des frais de police, parce que du coup, en dessous, ça commence à râler, à gueuler un peu. Donc du coup, bah, tu es obligé de mettre de la discipline, et ça aussi, ça a un coût, etc. Jusqu'au moment où tu commences à basculer de l'autre côté de la courbe. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça te permet d'augmenter tes rendements, et ça marche jusqu'à un certain moment où au final, tu es obligé de continuer d'investir et que tu perds de plus en plus. Parce que tu investis dans plus de complexité qu'il ne faudrait.
C'est comme si tu me parlais de l'Union européenne là, et de ses empilements de normes et de règlements et de machins et de strates de gouvernement, en fait. Mmh. On a essayé de faire mieux en rajoutant de la complexité et on arrive au moment où c'est moins rentable, quoi.
Mais parce qu'on a encore une fois changé d'échelle. Ouais. Tout est question d'échelle, en fait.
Ben ouais.
Que c'est un moment, quand tu veux gérer un trop gros volume, ben, ça devient une usine à gaz qui s'étouffe elle-même. Et donc, ça explique plein de choses. J'ai l'impression que sur chaque problème qu'on rencontre, on peut avoir ce prisme de réflexion et se voir au travers de ça et se dire, ça y est, on est arrivé à une phase de rendement décroissant.
Ouais.
Et donc, le truc est en train de crever tranquillement,
ouais,
petit à petit. Donc, ça, c'est les pensées qui sont assez fondatrices d'Adrastia. Et ce qui nous distingue aussi, c'est les valeurs auxquelles on est attaché, et donc valeurs de notamment la rigueur scientifique, parce que quand tu commences à partir dans toutes ces zones qui sont assez anxiogènes, bah, du coup tu peux trouver beaucoup de choses un peu alternatives, un peu perchées, parce que naturellement l'humain, quand il est confronté à des trucs hyper durs, il va être hyper tenté de trouver du réconfort dans des croyances. Et notamment, donc, nous, on est très, très attachés à faire la différence entre connaissance et croyance. Et d'ailleurs, on cite souvent une phrase de Jean-Pierre Dupuis, j'espère que je ne me trompe pas, qui est « Nous ne croyons pas ce que nous savons ». Et c'est vraiment ça, la pensée d'Adrastia, c'est cette prise de conscience du niveau 5 de chez Furka. C'est quand tu commences à croire ce que quelque part tu savais déjà, en fait.
Ouais.
Mais que c'était trop inconfortable, et que tu finis par lâcher prise et te dire, bah ok, j'arrête de douter, tu vois, comme moi quand j'ai arrêté de me dire, c'est pas possible qu'on ait pu en arriver là, sans que ça fasse plus de bruit. Et puis à un moment, j'ai lâché, je me suis dit, bah si, en fait. Et voilà.
On y est.
Et donc, ouais.
C'est rigolo, moi j'ai une démarche un peu pas du tout scientifique au début et pas du tout. Pas très complexe. Je suis juste parti du principe, parce que j'ai grandi au Québec pendant la guerre froide, que à tout moment on pouvait vivre une apocalypse nucléaire. Et du coup, j'ai construit mon rapport au monde sur une base très éphémère, tu vois. Je suis parti du principe que le monde, il allait péter, peut-être demain, peut-être dans un an, peut-être dans 2 ans. Et du coup, je pensais le monde de base comme étant un truc qui allait être très rapidement foutu, fini, anéanti. Et quand la guerre froide s'est un peu calmée et que le rideau de fer s'est ouvert, et avec la perestroïka et machin, 89, 90, 91, et que là, ça s'est apaisé, je me suis dit, oula, mais là, on va devoir s'occuper des autres problèmes, tu vois. Un peu comme quand j'ai réalisé que j'allais vivre plus que 35 ans et qu'il fallait que j'aille chez le dentiste, tu vois. C'est genre, bon, merde, ok. Et du coup, j'ai commencé à avoir une pensée plus à long terme, et je me suis dit, bon, faut que je vois où est-ce que le monde va aller, et j'ai commencé à m'intéresser du coup à l'écologie, à m'intéresser à plein de sujets, et j'ai eu l'impression d'acheter du temps supplémentaire, tu vois. Et du coup, l'effondrement, pour moi, c'est déjà du bonus par rapport à ce que je croyais quand j'étais mignon. Et du coup, c'est comme si c'était OK pour moi de base. Et du coup, j'ai pas eu de mal à faire cette prise de conscience-là, parce que j'ai jamais pensé autrement que c'était foutu, tu vois. Et du coup, je fais un peu office d'ovni, parce que quand les gens me disent « Oui, mais on va tous mourir et tout », je suis « Bah ouais, mais... »
C'était le début,
tu vois, c'était normal. Et du coup, ça va s'effondrer et tout, je fais « Ouais, mais ça va s'effondrer doucement. » T'imagines comment c'est cool, tu vois. Il va y avoir des seuils, il va y avoir des ruptures, des trucs, mais ça va pas s'effondrer d'un coup avec l'apocalypse nucléaire. Et du coup, bref. Donc,
Probablement pas.
En fait, on n'en sait rien. Mmh, on n'est pas sorti du bois, mais bon, bref.
Ouais.
Tout ça pour dire que je comprends complètement le moment de prise de conscience, parce que je me rappelle du moment où j'ai compris qu'il y avait la guerre atomique qui pouvait arriver à n'importe quel moment, tu vois. Et j'ai mis 2-3 mois à faire « Oh merde, tu vois, comment on va faire ?» Et puis, est-ce que nous, on va être impactés ? Et si oui, comment ? J'ai commencé à regarder les zones, tu vois, de retombées, les effets de la radioactivité sur les écosystèmes. En fait, on est tous morts. Si t'as de la chance, t'es pile au milieu, tu meurs tout de suite, tu vois.
Bref. Vitrifié.
Vitrifié.
Ouais. Ouais, moi aussi, c'était le moment où je me suis dit, bon, bah, finalement, peut-être que je vais pas mourir à 85 ans dans une EHPAD. Parce qu'au début, de façon inconsciente, je partais sur ce
modèle-là.
Cette perspective-là. Et je me suis dit, peut-être pas, et tant mieux, parce que du coup, je me suis mise à vraiment vivre, hein, ouais. Beaucoup plus intensément.
Ouais.
Quand je me suis dit, ça risque d'être plus court et moins cool que prévu, donc on va s'assurer que ce soit intense. Mmh.
Ouais.
Et que ça vaille le coup, et que chaque jour je me dise, bon, demain je peux crever, c'est bon, j'ai déjà fait des trucs trop cool.
Ouais, grave.
Et souvent je me dis que à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai déjà vécu que plus que 99% des humains qui sont passés sur cette terre. Parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était quand même 35 ans, hein, expérience de vie à peu près.
Ouais.
Et donc, du coup, tout ce que je vis, c'est déjà bonus.
Et il faut dire que. Et on peut dire que tu vis vraiment. Enfin, tu fais plein de trucs.
Ah, je m'éclate.
Ouais.
Ouais, carrément. Hein. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, souvent, je pense à des journalistes en particulier, ils parlent de gens qui croient dans la théorie de l'effondrement,
oui. Hein,
qui m'énerve plus que ça. Parce que notamment, ce sur quoi on travaille chez Adrastia, c'est exactement l'opposé de la croyance. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des croyances qui nous protègent. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais l'humain, c'est toujours adapté. » Bon, déjà, c'est pas vrai. Et c'est une croyance. C'est-à-dire que scientifiquement, non, que dalle. C'est une transition énergétique qu'on n'a jamais fait, on n'en sait rien. On espère que ça marchera, mais on n'en sait rien. Donc, si tu veux être rigoureux, tout ça, ce sont des croyances.
Alors, on s'est adapté à plein d'améliorations de notre niveau de vie. On s'est déjà adapté à des améliorations de notre niveau de vie, mais à des effondrements.
Ouais, c'est un truc qu'on n'a jamais connu. Donc, ouais. Par principe... on n'en sait rien.
Ouais.
Et donc, ça, c'est ça qui est une croyance. Et en fait, quand on dit, nous, chez Adrastia, qu'on considère que... Alors, on ne dit pas l'effondrement en général, parce que ça ne veut trop rien dire. Hein. Tout est changement. Et donc, c'est effondrement systémique global, c'est-à-dire l'effondrement du système thermo-industriel qu'on connaît aujourd'hui.
Ouais.
C'est... tu vois, j'aime pas du tout l'expression « la fin du monde ». Ça ne veut rien dire. C'est quoi la fin, puis c'est quoi le monde, tu vois ? Non, c'est juste... c'est un changement. C'est un changement qu'on va vivre. Et... pas forcément dans la joie et la bonne humeur, mais ça reste juste un changement de système. Et donc, en fait, quand on dit qu'on considère qu'il est inéluctable, c'est uniquement parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune raison de penser qu'on peut l'empêcher. C'est-à-dire qu'on est sur une trajectoire d'effondrement, avec un S, hein. C'est factuel.
Ouais.
Toutes les disciplines le montrent. On est sur une trajectoire d'effondrement. et que nous, on considère qu'il n'y a pas suffisamment de données pour croire que on aurait trouvé un moyen d'y échapper, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est plutôt une absence de croyance, justement.
Ouais,
c'est qu'on dit, bah non, c'est le chemin sur lequel on est et on ne croit pas qu'il soit possible qu'on change de route pour l'instant. On n'a aucun signe vraiment convaincant qu'on en soit capable. Et puis nous, il y a un mot qui est un peu tabou chez nous, c'est le mot solution, qui nous énerve plus que ça. Ouais. Parce qu'en fait, solution, dans la tête des gens, souvent, c'est le truc un peu facile, c'est-à-dire, c'est le truc qu'un scientifique ou un ingénieur dans un coin va trouver et qui va faire que finalement, ça se passera quand même bien sans que je change trop rien à mon mode de vie. Ouais. Du coup, on n'aime pas trop ça, parce que non seulement il y a des choses à faire, il y a tout à faire, en fait. Il y a tout à repenser, tout à changer. Mais on n'appelle pas ça solution, parce que ça nécessitera du changement et que ce ne sera pas forcément simple et que ça n'empêchera pas beaucoup de choses.
Ouais, c'est du damage control, quoi. En gros,
c'est de l'adaptation.
Je vais m'adapter à un truc qui se casse la gueule, je vais me débrouiller pour pas prendre le caillou sur le pied, quoi.
Mais ce ne sera pas une solution pour que les gens puissent continuer leur mode de vie comme ça, sans qu'il se passe quoi que ce soit, quoi. Je pense que ça n'existe pas, oui.
Moi, j'y crois plus depuis longtemps au fait que notre vie peut continuer comme ça. Je vis déjà dans le plan B, quoi.
Mais d'un point de vue physique, en fait, c'est pas possible. Ben si tu regardes juste notre mode de fonctionnement, c'est plus possible.
Ben non.
Enfin, ça peut pas continuer longtemps.
Ben non.
Après, la question de, tu disais tout à l'heure, ça va s'effondrer lentement, c'est hyper subjectif, en fait.
Lentement par rapport à l'apocalypse nucléaire.
Mais ouais, voilà. Et encore, l'apocalypse nucléaire, elle reste possible.
Oui.
C'est juste que je pense que c'est pas le scénario privilégié aujourd'hui, mais c'est théoriquement, c'est possible.
Ah, oui, bien sûr.
Tous les connards qui ont l'arme atomique, ils peuvent décider de péter un plomb demain et vitrifier tout le monde. Mais...
C'est clair.
Donc c'est possible, mais ça me paraît peu probable. Mais en fait, cette notion, elle est hyper subjective, c'est-à-dire que on est concrètement sur une trajectoire d'effondrement extrêmement rapide et brutal, d'un point de vue historique. On en parlait tout à l'heure avec Bruno, la disparition des dinosaures, par exemple.
Ouais.
Tout le monde a l'impression que genre la météorite est arrivée, et tout ça, on sait qu'ils ont mis plus de 33 000 ans à disparaître.
Ouais.
Donc ils n'ont rien senti, ils n'ont rien compris, en fait, à ce qui se passait. Parce que voilà, des grenouilles dans l'eau chaude, quoi.
Concrètement,
ils ont vécu une petite part du truc. Et nous, l'espèce d'apocalypse qu'on est en train de créer, elle se fait à une rapidité qui est hallucinante, mais vraiment hallucinante. La destruction de la biodiversité, elle s'est faite sur 50 ans, enfin dans des taux incroyables. La façon dont le climat est en train de déraper, donc on savait qu'il changeait, mais depuis 2022, il est en train de partir en cacahuète complet. Et on ne comprend pas bien pourquoi et tout ça, c'est juste à un rythme qui n'a rien de naturel et qui est complètement inédit. Et donc, ouais, nous, petits humains, avec notre prisme de vie de quelques décennies, et globalement, c'est ça, notre champ de vision, c'est ce que, les quelques décennies qu'on vit, ce que nous ont un peu raconté nos parents et nos grands-parents, et c'est tout. C'est que dalle, en fait, à l'échelle de l'humanité. Et donc, en fait... on est concrètement en train de vivre un effondrement ultra rapide et brutal. Mais si tu ramènes ça à la sensibilité d'un petit être humain, si ça doit prendre 50 ans, du coup, tu ramènes ça à l'échelle d'une vie et encore une fois, grenouille dans l'eau chaude. Et c'est pas plus mal, parce que du coup, on va avoir, entre guillemets, le temps de prendre conscience et de s'adapter. Mais les historiens du futur qui détermineront quand ça a commencé et tout ça, il y a de fortes chances pour qu'ils disent que ça a été l'effondrement le plus fulgurant qu'on ait jamais connu, quoi.
Bah par rapport sur une échelle géologique ou sur une échelle de
Même machin. Pas géologique, juste à l'échelle d'Homo sapiens, tu vois, par exemple, déjà.
Ouais.
Mais à l'échelle géologique, on est complètement inexistant. On vient juste d'arriver sur la planète, on est en train de foutre un merdier pas possible, et puis on risque de repartir assez vite. Mais...
C'est... C'est les deux planètes qui discutent ensemble, et puis il y en a une qui est un peu honteuse, elle fait « Ouais, j'ai attrapé des humains », et puis l'autre qui dit « T'inquiète, ça dure pas longtemps, tu vois.
» Mais c'est clair, et encore une fois, les dinosaures, quand j'ai étudié ça, ils ont régné, je sais plus de 100 millions d'années, je crois.
Ouais.
Je me souviens plus exactement. Mais ça devrait nous rendre hyper humbles, en fait.
C'est clair.
Parce que nous, ça fait pas longtemps, ça fait quoi, 200 000, 300 000 ans, même pas qu'on est là. Et
ouais.
On a déjà foutu une merde pas possible, quoi.
Ben, on a foutu une merde pas possible en l'espace de 200 ans, quoi.
Ouais.
Avec l'apparition de l'industrialisation. À partir du moment où on a harnaché le minerai de charbon et après le pétrole, etc., à partir du moment où on a utilisé massivement l'énergie.
Les énergies fossiles.
L'énergie fossile, ben c'est à partir de là que c'est devenu exponentiel.
Ben ça a démultiplié la force avec laquelle on s'est mis à tout détruire, en fait.
C'est ça.
Et à tout polluer. Ça a été un décuplateur de puissance pour tout polluer, tout détraquer, tout empoisonner. On a empoisonné tout. Hein.
Je faisais le parallèle avec la Première Guerre mondiale, qu'on était sur des modèles d'affrontement en mode gentleman dans la plaine, messieurs les Anglais tirer les premiers, tu vois. Et là-dessus, on a mis des mitrailleuses. Et ça a fait une boucherie sans nom. Et on a juste mis des tranchées en plus. Et après, les officiers continuaient avec le même esprit chevaleresque en mode bah, allez-y, mettez-y du cœur, quoi. Et on fait pareil, en fait, à l'échelle industrielle. Finalement, on a des attitudes et une culture qui sont bonnes pour les chasseurs-cueilleurs, en gros. Et puis, avec nos mêmes travers de « je veux manger tout de suite, j'attends pas du tout avant d'être satisfait dans mon envie, machin, je gère pas ma frustration », tous les trucs qui fonctionnaient pour maintenir en vie des chasseurs-cueilleurs, au final, sont hyper créos quand on a le pétrole, quoi.
Ouais, on nous a donné enfin on a trouvé un jouet un peu dangereux.
De ouf. C'est la mitrailleuse à bande de l'écologie, quoi.
Ouais. C'est ça. Pardon. Et pour revenir juste sur la notion d'écologie aussi, en fait, c'est juste une question de survie, parce que il y a beaucoup de discours écologiques qui parlent de la planète, de même la biodiversité, mais le seul enjeu, c'est nous, hein, c'est notre survie. Hein. Enfin, tu vois, on parlait de la blague des planètes, mais la planète, je pense qu'elle s'est à peine rendue compte qu'on était arrivé.
Ouais.
Et elle se rendra peut-être même pas compte qu'on a disparu. Et on peut lui faire ce qu'on veut à la planète. De toute façon, s'il lui faut 100 000 ou 100 millions d'années pour s'en remettre, elle les a.
Bien sûr.
En tant qu'entité géologique, elle a tout son temps. Donc, les trucs de sauver la planète, on s'en fout de la planète. Elle s'en fout de nous.
Ben oui.
L'enjeu, c'est le vivant. C'est-à-dire nous. Parce que là aussi, même quand on parle de la biodiversité, on crée cette espèce de distanciation qui est pas du tout opportune entre nous et la biodiversité. Et comme disait Christophe Cassou il y a pas longtemps, je crois que c'était sur France Inter, il disait un effondrement de la biodiversité, on s'adapte pas, on meurt avec. Parce qu'on en fait partie, en fait.
Ben oui.
On fait partie du vivant et on est ultra dépendant de toutes les dimensions de la biodiversité. Et donc, c'est pas qu'on risque de crever avec, c'est qu'on va crever avec si on continue de tout détruire.
Et il y a une fixette aussi sur le réchauffement climatique, je trouve, qui est certes un problème, mais pour moi, le principal problème, c'est les effets de ça, et notamment au niveau de la biodiversité et de comment la robustesse des écosystèmes diminue, en fait, à cause de l'effondrement de cette biodiversité-là. Et je vois plein de gens qui martèlent un peu le réchauffement climatique et le carbone et machin et bidule. Alors ok, mais j'ai plus l'impression que la biodiversité est vraiment l'enjeu principal aujourd'hui, tu vois.
Ben, en fait, je pense qu'il faut juste pas les distinguer. Alors déjà, je préfère parler de changement climatique que de réchauffement climatique, parce que la question du réchauffement, c'est qu'un des paramètres.
Ouais.
Qui sont problématiques dans le changement qui est en cours au niveau du climat.
Mmh.
Et tu ne peux pas les distinguer, c'est complètement intriqué, en fait.
Oui, bien sûr.
Et
justement, c'est bien ce qui m'emmerde, c'est que les gens parlent que du changement climatique et ils ne parlent pas de biodiversité.
Parce que les gens, ils choisissent leur combat. Alors, j'ai envie de te dire que ça a quand même beaucoup évolué, parce que dans toute la population, entre guillemets, écolo, tous ceux qui pour beaucoup sont rentrés par la fresque du climat, etc., la plupart ont touché, parce que forcément, quand tu t'intéresses au climat, tu comprends comment est-ce que ça impacte la biodiversité, et inversement, comment est-ce que l'effondrement de la biodiversité vient impacter. Alors, je ne sais pas si on peut dire le climat, mais en tout cas, les conséquences qu'a le changement climatique sur les sociétés humaines. Et donc tu trempes forcément dans ce sujet-là, et j'en ai vu beaucoup qui commençaient par cette question-là pour après s'ouvrir les chakras. Je pense à une super initiative qui s'appelle la CEC, donc qui est une structure associative qui embarque en fait des responsables d'entreprise pour les amener à une redirection écologique, à repenser le fonctionnement de leur business. Et elle s'appelle COC parce qu'au début, c'était la Convention des entreprises pour le climat. Et puis en fait, bah, très vite, quand ils ont mis le nez dedans, bah, ils ont cherché à se distancer. Donc, ils ont gardé l'acronyme parce qu'il est connu. Je sais qu'ils envisagent de changer de nom parce qu'ils ont bien compris que le climat n'était qu'un problème parmi d'autres.
Ouais.
Mais c'est souvent le problème par lequel tu rentres dans l'échelle de chez Furka. Le premier barreau de l'échelle, c'est souvent le climat. Quand tu te rends compte qu'il y a un problème. Puis après, tu te rends compte qu'il y a plusieurs problèmes. Et puis après, tu te rends compte qu'ils sont vraiment graves, puis qu'ils sont intriqués, etc. Mais c'est souvent la porte d'entrée. Et je suis d'accord avec toi que l'effondrement de la biodiversité est probablement impactant à plus court terme. Parce que j'ose pas dire plus grave, moins grave, parce que je trouve ça difficile de définir des niveaux de gravité.
Ouais.
Parce que tout dépend quel horizon temporel tu prends.
Ouais.
Mais globalement, les raisons qui ont fait qu'on a pullulé sur Terre, notre espèce, parce que ça fait longtemps qu'on est là, mais ça fait très peu de temps qu'on est hyper nombreux. Hein. On a mis, quoi, je ne sais plus, 200 000 ans globalement pour atteindre le premier milliard d'individus, puis d'un seul coup, on est passé de 1 à 8. Hein. Donc, les ingrédients de ça, ça a été un climat favorable et stable, qu'on connaît globalement depuis la fin de la dernière glaciation, donc c'est le moment où on s'est sédentarisé, à peu près il y a 12 000 ans.
Ouais.
De l'eau abondante et de la vie abondante. Et en fait, si tu retires un de ces trois ingrédients, en fait, notre vie est plus possible. Donc, ça, tu vois, j'ai du mal à dire, il y en a un qui est plus important que l'autre. On a besoin des trois.
Bien sûr.
Et on est en train de flinguer les trois. Donc, globalement, je ne sais pas lequel est le plus grave. Tous sont hyper graves. Peut-être la biodiversité à plus court terme, parce que ça s'effondre. Je t'aurais dit, oui, il n'y a pas longtemps, ça s'effondre. Enfin, ça se modifie plus rapidement que le climat. Mais je suis plus sûre de ça. Depuis 2022, ce qui est en train de se produire, on ne sait pas trop l'expliquer. Mais ça part complètement... Probablement que l'année dernière, on a atteint les 1,5 degrés qui était l'objectif des accords de Paris à la fin du siècle, avec 80 ans d'avance. C'est quand même un peu gênant.
Ouais.
Donc, c'est des objectifs qui étaient fous, ambitieux, pas réalistes. Mais quand même, c'est en train de partir vraiment fort. Il y a peut-être des boucles de rétroaction qui se sont déjà enclenchées. Donc, on n'est pas à l'abri d'une surprise sur le climat aussi.
Mais c'est tellement complexe que pour moi, c'est impossible de prévoir, tu vois.
Exactement.
Et autant il va y avoir un revirement et ça va se refroidir massivement parce qu'il se sera passé un truc, ou alors ça va s'accélérer encore plus.
C'est ce
ou
que
alors,
je crains, ça. L'arrêt de la moque, là.
Ouais.
Une glaciation, moi, je veux pas rester. Hein.
Ouais, toi, t'aimes pas le froid, tu vois.
Ah non, moi, je vous laisse. Hein. Ouais. Non, mais blague à part, oui, c'est une possibilité. Alors, il ralentit la moque, mais là encore, on n'est pas dans les mêmes espaces-temps.
Ouais.
Mais on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise et que ça s'accélère et tout ça, et que du coup, on prenne une nouvelle glaciation plutôt qu'un réchauffement. Mais enfin, dans tous les cas, ça risque de pas bien se passer.
Je vais dire un gros mot. Je vais dire le mot solution. Je parle pas de solution en termes de quelqu'un va régler le problème à notre place, etc. Mais en termes de comment faire pour que ça aille moins mal pour nous, pauvres humains, là. Est-ce que, à ton avis, selon ou dans l'état actuel des connaissances dont on dispose, est-ce qu'il y a moyen de ralentir le processus ou pas? Moi, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que c'est, on a lancé un truc qui va mettre plusieurs décennies, voire plusieurs siècles à se réguler si on arrêtait tout de suite, en gros, tu vois. Alors qu'on le fera pas. Et les effets de système, de rétroaction et de régulation et les propriétés émergentes des trucs, on peut absolument pas les mesurer. Mais est-ce que on peut faire quelque chose ou pas pour ralentir le processus, nous humains? Est-ce que, deuxième question. Comment absorber le choc en tant qu'individu, en tant que groupe, en tant que société? Comment faire pour faire en sorte que ça se passe moins mal? Point d'interrogation.
Pour son premier point, est-ce qu'on pourrait ralentir le processus? J'ai envie de te dire qu'en théorie, oui. Mm-hmm. Dans la mesure où tous ces processus ils sont anthropiques, il suffirait qu'on décide tous ensemble collectivement d'arrêter de déforester, d'arrêter d'empiéter sur les territoires des ailes, de laisser la vie suivre son cours, d'arrêter de flinguer le cycle de l'eau, d'arrêter d'émettre du CO2. Donc en théorie, il y a des choses qui sont déjà enclenchées, hein, clairement. Il y a des coups qui sont partis, mais c'est probablement pas complètement mort. Maintenant, je ne pense pas qu'il soit raisonnable de nourrir cet espoir.
Ouais.
Qu'on se mette tous d'accord d'un coup à 8 milliards pour arrêter de faire de la merde. Donc, je pense que ce n'est pas raisonnable de nourrir cet espoir. Donc, il me semble que pour l'instant, on ne peut pas ralentir ce processus et qu'au contraire, le système qu'on a mis en place est en train de faiblir et donc, en travaillant à sa survie, est en train d'accélérer la destruction. C'est plutôt ça que j'observe, en fait, c'est quand tu regardes ce qui se passe notamment au niveau géopolitique, on est plutôt en train de continuer d'accélérer dans la mauvaise direction, c'est-à-dire d'aller vers toujours plus de destruction.
Le plan B, c'est le plan A plus fort, quoi.
Exactement, en privilégiant toujours le court terme, c'est-à-dire, ouais, mais là, si on veut survivre là tout de suite, et donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va finir de détruire tous les écosystèmes et tous les trucs pour pouvoir se faire la guerre, pour pouvoir cramer un maximum de pétrole, pour pouvoir prendre les dernières ressources et pour survivre aujourd'hui, en sachant qu'on est en train de condamner littéralement toutes les générations futures. Et donc, malheureusement, c'est le chemin qu'on continue de prendre. Et en même temps, quand tu prends du recul, tu te dis, c'est le système qui travaille à sa survie et qui refuse de lâcher.
Bien sûr.
C'est le système qui agonise et qui continuera de foncer dans la même direction jusqu'à en crever. Je nourris pas trop d'espoir là-dessus. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe moins mal ? Alors, c'est ce qu'on dit, nous, chez Adracia, c'est qu'on cherche à promouvoir tout ce qui pourrait amortir le choc. C'est-à-dire qu'on n'a pas la prétention de se dire on peut empêcher le choc. Et là, tu touches à l'immense difficulté qu'il y a, ce que je disais tout à l'heure, à déterminer ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Comme on n'a absolument aucune idée précise de quand et comment ça va se passer, tous ceux qui disent qu'ils savent, ils vous en fument, de toute façon, parce que c'est paradoxalement, on va mourir d'une overdose de complexité. Et donc, cette complexité-là, elle est à la fois protectrice et destructrice. C'est-à-dire que elle génère une forme de... Alors, je ne vais pas dire de résilience, parce que c'est une forme de résistance. La complexité et les interconnexions du système, quelque part, ça rend moins facile la chute, mais ça la rend plus brutale. Parce que quand ça se casse la gueule, ça emporte plein de choses avec. Et donc, du coup, ça devient d'autant plus difficile d'anticiper ou de prévoir le quand et le comment. Donc, moi, je préfère partir du principe qu'on n'en sait rien. Et donc, ça veut dire lâcher le contrôle. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est pas... Chez Furka, il théorise le fait que quand tu arrives au niveau 5, tu prends ta grosse claque, etc. Bon, tant que tu digères, éventuellement, tu passes par une petite dépression, puis tu reviens. Tu as deux chemins, le chemin intérieur et le chemin extérieur. Le chemin extérieur, c'est vraiment les actions, tout ce que tu peux faire avec les autres, faire et tout ça. Et le chemin intérieur, c'est le chemin que toi, tu peux faire à l'intérieur. Et je pense que y a une partie qui est hyper importante, qui est se lâcher prise. C'est-à-dire lâcher cette dette de contrôle. C'est-à-dire, tu les vois, les gens qui n'ont pas fait ce chemin intérieur, c'est ceux qui sont tout le temps en train de chercher sur une carte où est-ce que c'est l'endroit, le meilleur endroit où il faut être en France, tu sais. Et c'est rigolo ça, parce que tu regardes leurs critères et puis tu as toujours deux, trois trucs à sortir pour leur péter leur plan, tu vois. Genre, ah, mais t'as oublié ça. Et là, ah, et c'est fini. Et donc, en fait, on n'en sait rien.
Bien sûr.
Parce que le coin de France qui te paraît le mieux, où il y a encore de l'eau, etc., t'en sais rien. Tu sais pas s'il vaut mieux être en ville ou à la campagne. Ça aussi, c'est un grand débat. On tranchera jamais sur cette question. Oui, à la campagne, tu as des ressources et tu as une forme de résilience, mais tu n'auras pas de sécurité. La sécurité, elle se fera de façon concentrique depuis les cercles de pouvoir, c'est-à-dire en ville. C'est bien si tu es à la campagne et que tu as de l'eau et de la bouffe, mais si tu as des... si tu as des gens qui passent et qui massacrent tout le monde tous les mois...
Ça fait de la bouffe en plus.
Voilà. Merci. donc, on n'en sait rien. Et donc, chacun a ses théories là-dessus. Ouais. Et je pense qu'il faut lâcher cette idée de vouloir contrôler, d'avoir le contrôle et de...
Je suis d'accord avec ça.
Voilà. Donc, une fois que tu t'es détendu par rapport à ça et que tu te dis que tu n'as pas la main là-dessus et tout ça, donc il y a le côté carpe diem, nourrir le présent, t'assurer que c'est OK de pouvoir mourir plus tôt que prévu parce que tu auras bien vécu, donc commencer par bien vivre. Et je pense que tout ce qu'on peut faire de bien au présent, c'est toujours bien. Chaque arbre qu'on peut sauver, en fait... tu vois, chaque rivière qu'on peut sauver, chaque espèce qu'on peut sauver, chaque animal qu'on peut sauver, chaque... Donc ça, je pense que là-dessus, on peut dire à peu près avec certitude que ça fait du bien, en tout cas que ça fait pas de mal. Donc, c'est pour ça que tu regardes politiquement, on est en train de vouloir faire sauter les ZFE, de faire sauter le zéro artificialisation nette. Enfin, ça, c'est du court-termisme pur et simple.
Bien sûr.
Parce qu'à court terme, bah oui, mais il faut construire des trucs, il faut ceci, développement économique, machin, mais on va tous en crever de ça. Et donc, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, ça, je pense que c'est bon, en fait. En tout cas, ça fait pas de mal. C'est pour ça que je pense aussi que, enfin, tu vois, quand les journalistes qualifient les défenseurs, ils appellent défenseurs de l'environnement ou défenseurs de la nature, je pense que si on commençait à les appeler parce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire défenseurs de la survie de l'humanité, on changerait un petit peu de regard sur tous ces gens-là. Alors, c'est pas évident parce que c'est assez indirect, mais ces gens-là se battent concrètement pour la survie de l'humanité. Quand tu cherches à pas faire raser une forêt et tout ça, c'est à ça que tu contribues.
Bien sûr.
Que tu cherches à protéger un cours d'eau, de pollution, de plein de trucs. Et après, je pense que il faut repenser notre façon d'être humain. Et tu disais tout à l'heure qu'il y avait aussi une crise enfin, sociale, je ne sais plus comment tu l'exprimais.
Oui, sociale.
Mais on est en train d'être aussi empoisonné psychiquement. C'est-à-dire qu'on a désappris à se comporter comme des êtres humains. On se détache les uns des autres. Enfin, on se fait bouffer le cerveau par les réseaux sociaux, par plein de choses. Et on a perdu l'habitude du collectif, de s'entraider, de plein de choses. Et en fait, je pense que ça fait partie des choses qui sont utiles à la fois dans le futur et dans le présent. Mmh. C'est des choses qui nourrissent notre bien-être et notre humanité au présent et qui seront utiles pour le futur. Donc, essayer de se poser la question de comment est-ce qu'on peut essayer de redevenir humain. Se reconnecter avec ses besoins fondamentaux, tout ce qu'on fait dans tes stages.
Ouais.
Et se reconnecter aux autres, avec ses voisins et tout ça.
T'as vu, hier, on a rangé du bois tous ensemble.
Ah, c'était trop cool.
On a rangé 15 terres de bois qui étaient mal garées en 3 heures. Aujourd'hui, on a aidé une voisine à amener sa jument, enfin, la pouliche, retrouver sa maman... malgré le niveau de stress qu'elle avait, vu qu'il y avait plein de gens bienveillants autour qui étaient calmes et tout, on a réussi à l'amener dans son enclos sans bagarre. Bon, après, elles se sont frittées entre elles, mais ça, c'est autre chose, c'est leur vie de cheval, tu vois. Et j'ai trouvé ça génial, et j'adore justement ces petits moments d'humanité en petits groupes, quoi, en petites tribus. Ça fait chaud au cœur, et c'est hyper évident ici parce qu'on le fait tout le temps. Et on se rend plus compte. Et c'est toi qui disais hier, ouais, c'était génial, on a rangé du bois ensemble.
Moi, ça m'a fait ma journée, moi.
Mais meuf, on fait ça tout le temps, tu vois. Puis ouais. Après, j'ai pris du recul. J'ai vu comment t'étais vraiment contente et je me suis dit, ouais, en fait, c'est précieux, ce truc.
Ah, mais c'est le kiff. Et ce que j'ai aimé particulièrement, c'était la spontanéité du truc.
Bah ouais.
Parce qu'à la base, ils étaient tous les deux avec leur tas de bois immense. Et nous, on est arrivé avec Bruno, je cherchais des gants.
Ouais.
Et après, bon, on avait le luxe d'être en vacances, donc
oui, mais
on n'avait rien de prévu de notre journée, et du coup, spontanément, et d'un coup, et toi tu passes, et puis Thierry passe, et on s'est retrouvés à 7, et personne n'a rien demandé en fait.
Mais non.
Ça s'est fait de façon ultra spontanée, ça s'est organisé de façon spontanée et tout ça, et on a plié le truc, et à la fin, tout le monde était grave content d'avoir plié le truc.
Et en plus, il est bien rangé, quoi.
Et en plus, il est bien rangé, ouais, c'est clair.
Non,
c'était satisfaisant à tous les niveaux. Et moi, ce que j'ai kiffé, c'est la spontanéité. Et là, on est redevenu hyper humain.
Mais c'est
comme une boîte de chauffage, en plus.
Ouais, mais en plus. Mais ça, pour moi, tu vois, c'est l'état dans lequel on est quand on est... j'appelle ça la normalité.
Ouais.
Tu vois, j'appelle ça la normalité. Et tout le reste, quand les gens se râlent dessus parce que le bois, il traîne, tu vois, plutôt que venir donner un coup de main au voisin, ça, c'est pas normal. Et les effets des clivages et des ruptures du tissu social et de tout ça entraînent des tensions et entraînent de l'absence d'entraide et entraînent de la concurrence et entraînent plein de trucs qui sont hyper nocifs. Et moi, je crois vraiment que quand on prend soin de la nature, on prend soin de nous. Tu vois, et quand on prend soin de nous, on prend soin des autres, et tout ça est hyper intriqué, hyper interconnecté. Et un humain qui va bien, il consomme moins, il a moins besoin de saccager son environnement pour se défouler. Tu vois, il est juste là, il contemple, il trouve ça beau, machin, il va aller aider son voisin. Enfin, c'est tu vois, j'en parle, j'ai les poils au garde à vous, tu vois,
c'est l'émotion.
Mais c'est quand je dis quand un truc je le sens vraiment vrai, ça me fait ça à chaque fois. Et c'est hyper précieux. Et pour moi, ça fait partie de la gros guillemets solution, dans le sens où c'est ça amortit le choc, tu vois. Et je pense vraiment que ça, c'est une des manières dont on peut amortir le choc. Je pense vraiment que d'adopter des modes de vie qui sont moins dépendants des grands systèmes logistiques et des complexités thermo-industrielles, et d'être plus proche de la nature, plus proche les uns des autres, plus proche du paysan, tu vois, avec moins d'intermédiaires, bah, ça sacrifie peut-être toutes les couches de complexité qui s'empilent là-dessus, et tant pis pour eux, tu vois. Enfin, à un moment donné, si tu produis rien, t'as pas besoin d'avoir de pognon en échange, quoi. Donc, tant qu'ils feront semblant de bosser, on fera semblant de les payer, tu vois ce que je veux dire.
C'est ça.
Et moi, j'adore aller au marché, acheter le fromage, j'adore aller chez le voisin et prendre des courgettes qu'il a fait pousser dans son potager et qu'il en a trop et il nous en file et j'adore tout ça, quoi. Et ça demande des compétences, ça demande une attitude où on est d'accord pour faire des trucs concrètement, ça demande d'accepter qu'on n'aura pas peut-être avoir la plus grande télé écran plasma super grosse, on va peut-être avoir une vieille télé toute pourrie qui est même pas connectée à l'antenne, parce qu'en fait ça sert de temps en temps à regarder une...
Je l'ai jamais vu allumée.
Ben non, elle est jamais allumée. Sauf quand tu joues à la play, les gamins, tu vois. C'est accepter de changer de métrique de réussite quelque part aussi, tu vois. Genre, la réussite, c'est quoi? Réussir sa vie, c'est quoi, tu vois? Moi, je vais pas nommer de nom, mais quelqu'un disait à mon fils que... À 18 ans, il allait avoir deux choix. Soit il allait partir faire des trucs et faire des grosses études, ou sinon il allait finir chez son père et rater sa vie. Et je fais rater. Tu penses que tu vas rater ta vie si tu viens vivre ici? Tu crois qu'on n'a pas des livres? Tu crois qu'on n'a pas, je sais pas, tu vois, tu crois qu'on n'a pas Internet? Tu crois qu'on, tu peux pas apprendre des trucs? Et puis il était en mode, bah ouais, mais c'est débile. Je fais, bah ouais, t'es d'accord, c'est débile. Et rater sa vie, c'est quoi? Et réussir sa vie, c'est quoi, tu vois? Et du coup, je pense vraiment qu'on a besoin de se retrouver, et c'est un truc que t'as bien nommé tout à l'heure, de se retrouver dans les trucs qu'on aime faire, tu vois, les trucs qui ont du sens pour nous individuellement et collectivement, parce que ça permet qu'on repart de soi, tu vois. On repart d'un truc hyper simple et concret de « j'adore ranger du bois », tu vois. Moi, j'adore fendre du bois au Merlin, c'est mon kiff absolu.
J'ai vu ça.
Et à chaque fois qu'il y avait une bûche trop grossière, je l'éclatais, je la fendais en deux en mode samouraï.
J'ai vu l'étincelle dans tes yeux.
Et ouais, mais vraiment. Et j'adore faire ça. Je sais pas pourquoi, tu vois, c'est complètement con.
Non.
Mais bon, je suis probablement le plus performant à 50 km à la ronde, c'est pour fondre du bois.
Ouais.
Je pense que je suis meilleur que la fondeuse à bois pour fondre du bois. Tellement j'aime ça, tu vois. Bref.
Voilà. Ouais.
Et ça permet de suivre social vachement simple, parce que du coup, c'est simple. Il n'y a, a pas de complexité dans l'échange, il n'y a pas besoin d'institutionnaliser quoi que ce soit, tu es juste en mode « Ah, t'as trop de courgettes, tu m'en donnes, ah putain, trop bien, merci !» Et puis tu prends une petite note mentale que ce mec, il t'a filé des courgettes et que peut-être tu lui fileras des salades si t'en as trop, ou tu l'aideras à ranger son bois, ou je sais pas quoi.
Enfin, et ça existe encore, hein, mon père via la campagne, et c'est juste le troc, c'est juste la base.
C'est la base de tout.
Locale, ils n'ont jamais arrêté, eux, en fait.
Ben oui, et ici pareil, et à plein d'endroits pareil. Et je me rends compte que les endroits, ça s'est le plus arrêté, c'est les endroits où il y a plus de pognon. Où les gens sont plus riches, sont mieux lotis, ont des plus belles maisons, des plus belles voitures, des plus grands écrans plasma. Et en fait, la richesse, ça rend un peu con, j'ai l'impression, tu vois.
Je sais pas si c'est con, mais à partir du moment où chacun a les moyens d'avoir sa perceuse, t'as plus besoin de la demander aux voisins.
Ouais, c'est ça.
Et c'est vrai pour tout le reste, en fait.
Ouais.
C'est que l'argent permet artificiellement de se suffire. Et s'il y a un truc que tu ne sais pas faire,
tu l'achètes,
voilà, tu as acheté la compétence. Là où avant, bah, comme tu n'avais pas le fric, bah, du coup, tu cherchais la compétence et tu trouvais un voisin.
Mmh.
Du coup, tu interagissais avec un autre être humain et qui te rendait un service. Du coup, tu lui rendais un service. Donc, ça, c'est un cercle vertueux.
Et ça crée du tissu social. Ça crée
plus de liens. Et ouais.
Ça, c'est génial. Mais est-ce que tu as fait le stage tribu, toi? Je pense que je crois pas.
Non.
Non, il ne me semblait pas.
Non, non.
Dans notre stage tribu qu'on ne fait plus, mais. On faisait beaucoup l'échange de compétences. On enseignait aux gens, on enseignait des trucs. Et du coup, chacun s'enseignait...
On a fait au leadership.
Ouais. Mais en fait, le stage leadership, c'est en droite ligne, c'est le bébé du stage tribu. Juste adapter ça en dehors de la forêt, tu vois. Mais bref, et c'est littéralement le moment où les gens retrouvent du pouvoir dans le groupe en partageant des informations les uns avec les autres, et on se rend compte que chacun a une fonction
Une place, ouais.
et une place, et c'est deux choses différentes. Et il y a à un moment donné, je me rappelle toute ma vie, un mec qui disait moi je sais rien faire, quoi. Je ne sais rien faire, je sais pas couper du bois, je sais pas monter des bâches, je sais pas machin. Dans la vie, je fais que de raconter des histoires, et puis je fais des teufs. Je dis, mais tu crois que ça sert à rien de faire des teufs? Il fait, ah ouais? Ah ouais, c'est vrai. Et en fait, sans s'en rendre compte, chaque soir du stage, c'est lui qui racontait des blagues, qui racontait des anecdotes, des histoires,
C'était
et
votre
puis...
troubadour.
Mais littéralement, c'était le griot, du coup, on l'avait surnommé griot, tu vois, c'était le mec, et en plus, il jouait du djembé, il jouait de la flûte, il faisait plein de trucs trop cool. Il mettait une ambiance de dingue et il avait ce don de raconter la journée, tu vois. Il racontait ce qui s'était passé dans la journée d'une manière super captivante et super géniale. Et tout le monde était rivé à lui en mode, ouais, mais comment tu sais, il avait une espèce de charisme de je raconte des histoires et ça marche trop bien, tu vois. Et c'était génial. Et du coup, je lui ai dit, mais frérot, t'es le lien, tu vois, t'es la personne qui fait que tout le groupe adore être ensemble le soir et passer un bon moment. Et le lendemain, on est content de bosser ensemble. C'est hyper précieux. Et il a versé sa petite larme en mode, je pensais que je servais à rien, ça me fait trop du bien. J'ai fait un gros hug en mode, merci, tu vois. Et tout le monde servait à quelque chose. Les anciens, ils servaient à quelque chose. Les bébés, ils servaient à quelque chose.
Je pense qu'on a quand même dans notre société moderne créé des gens qui aujourd'hui servent à rien, qui pourraient servir à quelque chose, mais qui
Non,
aujourd'hui servent
mais
à rien.
je parle dans un
Mais
groupe sain, dans un
ouais,
groupe proche de la nature, tout le monde sert à quelque chose.
un bon test, c'est tu repenses à un village, je sais pas, genre médiéval, je dis celui de cette
Ben ouais.
époque, mais ça pourrait être n'importe quel autre. À l'époque, on était encore autonome,
Bien
on était
sûr.
encore connecté à nos besoins fondamentaux. Et bah, si ton métier il existait, c'est qu'a priori tu servais à quelque chose. S'il
Tout
n'existait
à
pas,
fait.
c'est qu'a
Tout
priori
à
t'es pas
fait.
forcément utile.
Ouais.
Et typiquement, il y avait déjà des troubadours, il y avait déjà des
Ben oui.
troupes et tout ça, parce qu'on a besoin de ce lien, comme tu dis, et tout ça. Et un autre bon test aussi que je trouve pour savoir si t'es utile, c'est tu dis si t'arrêtes de faire ton job pendant une semaine, si le monde s'écroule pas, c'est que pas sûr que tu serves à quelque
C'est
chose.
clair.
Et souvent, tu vas réaliser que ton métier découle de la complexité et donc nourri par la complexité.
Ben, tout à fait. Et que ça sert à quelque chose dans le monde d'aujourd'hui, mais que en cas d'effondrement, ça sert déjà plus à rien, quoi.
Mais on a tous d'autres choses qu'on peut développer
Ben oui.
qui pourraient être utiles dans... Je sais pas si on peut dire un monde effondré, parce que, enfin, je sais pas à partir de quel moment est-ce qu'on le considère effondré, tu vois.
Oui.
Il est en cours d'effondrement jusqu'à un moment où on se dit qu'il y a peut-être un truc qui a vraiment profondément changé et que les historiens, ils vont dire, ah bah ça y est, on a vécu un changement d'époque.
Oui, ben c'est
Mais
comme
voilà, ça restera un processus, quoi.
le seuil est difficile à déterminer, quoi.
Enfin, c'est un changement qu'on va traverser et qui peut-être prendre la durée de toute la vie de nous et de ceux qui nous écoutent, en fait. On saura pas. Tu vois, pour moi, c'est les historiens du futur qui sont peut-être pas encore nés qui détermineront quand ça a commencé et éventuellement quand ça a fini. Donc nous, on saura jamais. Et moi, je suis OK avec ça. Ça m'est égal. On s'en fout d'avoir raison de toute façon.
Oui.
Et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, prendre soin de soi et tout ça. J'adore, moi, je donne une conférence qui s'appelle en gros les enjeux du XXIe siècle pour l'humanité. Et j'aime la terminer sur la phrase de 1984 que j'adore, qui était « Mais si le but poursuivi n'était pas de survivre, mais de rester humain ?» Et je pense que ça résume tout, c'est-à-dire que si on a envie de se préparer à ça, à ce qui va se produire, donc on ne sait pas quand et on ne sait pas comment, nourrir tout ce qui nous permet de développer notre humanité dans le sens le lien avec le vivant, le lien avec nos besoins fondamentaux, le lien avec nos congénères. Je pense que c'est ça le but. Le but de la vie, tu vois, pas seulement enfin, le chemin, en fait, parce qu'on sait même pas quand est-ce qu'il va s'arrêter le chemin. Donc pour moi, il n'y a pas de... Je me prépare pas pour un truc futur, en fait,
Ben
qui
non, non.
arrivera ou arrivera pas, je sais pas comment et je sais pas quand. Donc en fait, c'est comment est-ce que je fais de mon but dans la vie le fait de développer mon humanité, ou en tout cas de la préserver au maximum. Et je pense que la première chose à faire, elle est là, c'est-à-dire que la plupart des gens, ils vont pas bien. Tu disais ça,
C'est
c'est quand
clair.
les gens, ils vont bien. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a une grosse majorité de gens qui ne vont pas bien. Alors, ça se voit au travers de t'as des signaux, tu vois, ou des signaux indirects, genre l'état de la santé mentale et tout ça, l'état physiologique,
Niveau de violence.
le niveau de violence, ouais, comment est-ce que les gens mangent, comment est-ce qu'ils sont en mauvaise santé, tout ça, ce qu'ils bouffent comme anxiolytiques, comme médicaments en tout genre et tout ça. Aujourd'hui, les humains ne vont pas bien. Et donc, la première chose à faire, c'est soigner les humains. Parce que plus les humains seront mal, moins bien ça va se passer, en fait, le changement.
Bah ouais. Et avoir une approche préventive potentiellement de la santé, prévenir les maladies qu'on peut prévenir en tout cas, tu vois, avec une alimentation plus saine, avec l'activité physique, enfin, c'est connu, à un moment donné, on sait comment faire pour être bien, avoir du lien social, gérer son stress, bien dormir, enfin, boire assez d'eau, bouffer moins de microplastiques, enfin, et c'est.
Ça, tu peux pas.
Non, mais je rigole, je
Ça,
dis
tu
ça
peux
pour
pas
la
choisir.
blague.
Mais ouais.
Et l'idée étant de déjà de prendre soin de la santé, du lien, des émotions, de plein de trucs. Et on revient encore au stoïcisme, je trouve, parce qu'on a facilement l'illusion qu'on a prise sur plein de trucs et qu'il faut absolument, et que ça, c'est le but, alors qu'en réalité, on a pris sur certaines choses qui fonctionnent aujourd'hui, genre notre santé, genre notre condition physique, genre le lien social, comment on traite nos voisins, comment on s'adresse à nos enfants. Et tout ça, on a prise dessus, quoi.
Ah, je suis moyen d'accord avec toi.
Ah bon?
Non, je pense qu'on a pris sur une partie. Alors, du coup, juste sur mon domaine, tu vois, sur la santé. En fait, on sait aujourd'hui, de façon relativement claire, voire très claire, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour être en bonne santé. Pour autant, on ne change pas à l'échelle populationnelle. On sait qu'il faudrait investir massivement sur la prévention et que ça nous coûterait beaucoup moins cher. On ne le fait pas. Le système continue de ne pas le faire, de payer des milliards de
À
médicaments
l'échelle individuelle.
pour des maladies qu'on pourrait éviter. Et à l'échelle individuelle, je pense que on n'a pas tant de prise que ça. Tu as une prise sur une petite partie des choses, mais si tu regardes le cadre social, c'est-à-dire que moi, je suis pas OK de taper sur les doigts des gens en leur disant tu manges de la merde, alors que, en fait, ces gens-là, tu les exposes en permanence à des pubs pour des trucs qui sont pas bons pour eux. D'où on n'a pas arrêté ça. D'où on n'a pas interdit la pub pour les trucs qui sont objectivement pas bons pour la santé. On leur demande d'éduquer leurs gamins à bien manger, et les parents, dès que la télé est allumée, les gamins sont exposés à des pubs pour des trucs qui sont pas bons et que les parents. Tu te dis, mais il n'y a pas de sens. C'est-à-dire qu'en fait, tu frappes sur les parents en disant il faut leur expliquer qu'il faut manger des légumes, et de l'autre côté, tu laisses faire une pub intensive qui matraque les gamins. Tu regardes aussi dans les magasins, bien souvent, ça coûte moins cher d'acheter des trucs mauvais
C'est
que
clair.
d'acheter la nourriture saine. Donc là, ça veut dire qu'il y a clairement un régulateur qui ne fait pas son boulot. Tu ne peux pas reprocher aux gens de mal manger et laisser faire ça, c'est-à-dire que tu mets à disposition, c'est l'offre de risque, comme dit Jean-David Zetoun, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on laisse se développer de façon complètement anarchique l'offre de risque, des trucs qui sont toujours plus mauvais pour la santé, et puis après derrière, on va aller reprocher aux gens d'adhérer, enfin tu vois, de souscrire à cette offre.
Mais moi, je
C'est
reproche pas aux gens
complètement
de faire ça.
hypocrite. Donc je
Par
pense qu'il
contre,
y a de la responsabilité à tous les niveaux. C'est-à-dire, je suis d'accord avec toi, il y a une part de prise qu'on a au niveau individuel,
bah oui.
mais je trouve qu'au niveau collectif, on
Ah,
ne
mais
fait pas du tout le taf,
on
mais
pourrait
vraiment
aider
pas.
beaucoup plus au niveau
On enfonce
collectif,
les gens, on
bien sûr.
enfonce complètement les gens. Tu rajoutes, tu vois, un monde qui est de plus en plus difficile avec des gens qui ont de moins en moins de moyens et de moins en moins de temps aussi. Tout est fait pour leur bouffer le cerveau et pour leur bouffer le temps.
Ben
Et puis, d'un autre côté, on leur reproche, tu vois, ça n'a pas de sens.
ouais. Moi, je suis pas dans une dynamique de reproche, hein. Je suis dans une dynamique que moi, étant donné que j'ai la latitude et l'espace mental et les informations et que je suis pas exposé aux pubs parce que j'ai jamais la télé allumée et ben je peux choisir de faire différemment et je le fais, tu vois. Et j'essaie de partager mon modèle à qui en veut parce que ça marche pour moi en tout cas. J'essaie de sensibiliser les gens qui s'intéressent à différentes toxines, toxiques, machins qui sont accessibles commercialement, facilement et qui sont pas chers. Je milite pour que le ratio dans le budget pour l'alimentation soit vachement plus élevé que le ratio pour les consoles de jeux ou les clopes, ou, tu vois. Et en même temps, je me permets pas de juger les gens, parce que moi-même, pendant des années, j'ai tourné au Monster et au Cup, hein, et du coup
et aux Doritos, un peu de
et aux
beurre aussi.
Doritos, ça, je peux encore détoxer ma vie complètement. Mais ça va bien avec l'apéro, je trouve. Du coup, c'est, tu vois. Mais c'est pas bon. C'est évidemment pas bon pour la santé et pas optimal, tu vois.
Et en même temps, c'est pas ça qui va te tuer.
Bah, pas à
Un
court
paquet de temps
terme.
en temps. Ouais.
Pas à court terme.
Ouais.
Bref, tout ça pour dire que je veux pas blâmer, je veux pas juger, je veux pas enfoncer les gens. C'est pas le but du tout. C'est vraiment, par contre, à partir du moment où on commence à choisir de choisir, tu vois. Et de prendre des informations et de s'informer, machin, mais on rentre dans une dynamique d'un peu plus grand libre arbitre et ça peut aller vers un cercle vertueux qui fait que les gens ben, prennent soin d'eux et du coup ça rayonne sur les autres et sur la nature, et comme on
Et
disait
c'est le
tout à l'heure.
cercle vertueux qui se met en branle, ouais.
Ouais. Et du coup, je suis complètement d'accord avec toi que la première étape, c'est de commencer par s'occuper des gens, tu vois.
En fait, pour moi, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a une part de responsabilité individuelle importante, mais il y a une part collective tout aussi importante. Et si on
Oui.
n'active pas les deux, on n'y arrivera pas, parce que je pense qu'il y a toute une part de la population qui est coincée, qui est enlisée. Tu vois, je pense à toutes les mères célibataires qui ont à peine de quoi vivre et qui
Et
se
les
disent,
pères
ah bah oui.
célibataires aussi.
Et ouais, il y en a beaucoup. Hein.
Là, j'en connais plusieurs.
C'est 80% de femmes, familles monoparentales,
Certes,
mais il y en a, ouais.
mais je connais des pères célibataires
Et
qui sont en galère de ouf.
ils sont graves dans la merde, et ils manquent à la fois d'argent et de temps, parce que tu vois, enfin, l'éducation, ils n'ont aucune envie que leur gamin finisse en taule, et tout ça,
Ouais.
mais sauf que quand tu dois gérer deux boulots ou avec des horaires en décalé et tout ça, tu peux juste objectivement pas tout contrôler dans la vie de ton gamin.
Non, mais c'est clair.
Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se sentent vraiment coincés. Et donc tous ces discours de il faut manger mieux, bouger plus, machin truc et tout ça, je me dis tant que le collectif leur donnera pas les moyens de faire bien, faut qu'on arrête de leur demander. Enfin,
Oui, ben
c'est
c'est clair,
juste
faut que
honteux. Et
ça s'arrête
donc
de taper dessus.
il y a une démarche collective énorme à mettre en place là-dessus.
Mais encore là,
Et
on revient au tissu social, tu vois.
ouais.
Moi, j'étais père monoparental ici pendant un an et demi quasiment, tu vois. Et en garde alternée, mais quand même. Et en fait, j'avais des voisins qui m'aidaient, j'avais des potes, j'avais, tu vois. Et c'était faisable, c'était gérable parce que j'avais du soutien, tu vois. À l'échelle du petit hameau,
Tout à
j'avais du
fait.
vrai soutien. Et à plein de moments, fallait que je bosse et je savais pas comment récupérer mon gamin à l'école. Et c'est le voisin qui passait, qui le faisait pour moi, machin.
Faut un village.
Il faut un village pour élever un gamin, et il faut un village pour prendre soin d'un adulte, il faut un village pour prendre soin d'un ancien, tu
Pour
vois.
tout le monde, il faut un village. Ouais.
Il faut un village d'au moins 30-40 personnes, idéalement, tu vois. À partir de 15, ça commence à marcher, mais quand on est 20-30, c'est cool, tu vois.
Ouais.
Et d'où mon projet de hameau, où, tu vois, ça se fera un jour, je pense. Mais coût de l'immobilier, la spéculation, tout ça, on est sur des problématiques complexes et intriquées, encore une fois. Bref.
Mais tout ça peut changer très vite.
Ouais. Oui, et effectivement, les règles et la manière dont on organise le vivre ensemble aussi, je pense, change énormément de choses. La manière dont on applique les lois aussi. Ou pas, tu vois. Alors selon si t'es milliardaire ou pas, t'as pas forcément les mêmes contraintes. Enfin, bref. Bon, je sais pas si je suis joyeux ou déprimé. Je suis un peu les deux en même temps, tu vois. Déjà, je suis joyeux parce que c'est bientôt l'apéro. Mais deuxièmement, Non, je suis pas déprimé. Je suis... à la fois fasciné et fasciné comme le chevreuil dans les phares de la bagnole, tu vois ce que je veux dire?
C'est pas bon ça.
C'est pas mal. Tu vois, t'as la bagnole qui arrive, t'es hypnotisé par les phares et tu sais qu'il faut bouger, mais tu bouges pas, tu vois, c'est ce truc
Tu
ambivalent en
crois pas
mode.
encore ce que tu sais.
Si, alors pour le coup, je crois très bien, mais. J'ai une sorte de capacité à me concentrer sur qu'est-ce que je kiffe aujourd'hui, qu'est-ce que je fais, machin, tu vois, on a rangé du bois, c'était cool, alors que ça n'a pas changé la vie de la planète, tu vois, mais et de temps en temps de me replonger, de me remettre le nez dans la réalité bien concrète du truc, ça me refait une claque à chaque fois, tu vois. Et c'est une claque qui est super saine, hein, et qui me rappelle qu'il ne faut pas gaspiller le temps qu'on a, et qu'il faut pas gaspiller, et qu'il faut continuer à œuvrer pour créer du tissu social et nourrir son adaptabilité individuelle et collective, je pense, si on peut.
C'est une question qu'on me pose souvent, ça. Tu vois, genre, comment tu vis le fait de baigner là-dedans depuis plus de 10 ans et tout. Et ça prend du temps, et je pense que c'est propre à chacun, en fait, ouais, de digérer vraiment le truc, dans le sens vraiment l'accepter et tout. Et après, j'utilise souvent la comparaison avec le vaccin, forcément. Parce que j'ai l'impression qu'avoir atteint tu vois, le niveau 5 et puis avoir fait le chemin intérieur de l'acceptation, pour moi, c'est comme un vaccin. C'est-à-dire que j'ai développé une forme d'immunité. Et donc, un vaccin, il y en a beaucoup qui l'ont appris avec le Covid, c'est pas une barrière magique à l'extérieur de toi. Hein. Ça t'empêche absolument pas d'attraper la maladie, enfin, en tout cas d'attraper le pathogène, ça t'empêche de développer la maladie ou une forme sévère de la maladie. Et donc, ce que je dis souvent, c'est que je reprends des petites claques quand je lis une mauvaise nouvelle, et puis il y en a beaucoup hein, quand même, que ce soit sur la biodiversité, sur le climat, etc. C'est pas que ça me fait rien, ça me fait quelque chose, sauf qu'en fait, je le digère de plus en plus vite. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais mon immunité qui est au taquet. Déjà, j'ai déjà le niveau de ce que j'ai accepté est déjà très haut. Et à chaque fois, je reprends une petite claque parce que je reste humaine et que ça reste triste ou autre. Mais en fait, mon immunité se met en branle très vite. Et du coup, je ne développe pas la forme sévère. Donc, je vois ça comme un genre de vaccin. Je continue de ressentir les choses et de les attraper, mais elles ne me bouffent pas, en fait.
Je dis souvent que je suis devenu spécialiste du deuil, tu vois. Ça aussi, c'est perdu. Ok, clac, tu vois, je coupe le fil de mon attachement à ce truc-là. Parce que,
et tu acceptes d'être triste.
Et j'accepte d'être triste pendant un temps. Et exactement. Voilà. Je ne lutte pas contre ta tristesse. Je prends la vague et ça passe. Et après, je continue. Ce truc est très précieux, je trouve. Et il y a une notion que j'aime beaucoup qui vient d'une meuf dont j'ai oublié le nom parce que je n'ai pas la mémoire des noms. C'est l'acceptation radicale. Tout ce qu'on peut pas, tout ce sur quoi on n'a pas prise, tout ce qu'on peut pas changer, peut-être, il faut l'accepter.
Le travail qui relie, celle qui a créé.
Non, je crois pas. Peut-être. Écoute, je suis tellement pourri en nom.
Sinon, tu luttes pour rien, en fait.
Ouais, voilà, tu perds juste d'énergie à te battre contre un truc que tu pourras pas changer. Mais on passe notre vie à faire ça, nous pauvres humains, soit par le déni, soit par le fait qu'on continue d'essayer plus fort le même plan, soit parce qu'on essaie plein de plans différents jusqu'à ce qu'on s'épuise ou qu'on meure en essayant, tu vois. Et si on peut pas changer de stratégie ou d'approche, à un moment donné, il faut juste accepter, tu vois. Et c'est très stoïcien, encore une fois. Bref. Mais pas que stoïcien, il y a plein de traditions qui ont dans ce sens-là.
Et au final, je le vis de mieux en mieux au quotidien.
Ouais.
Donc ça, c'est bien, ça donne souvent un peu d'espoir aux gens. Je leur dis, franchement, je vais bien. C'est juste que oui, ça me fait toujours un peu de peine quand je lis un truc, encore une mauvaise nouvelle.
Ouais.
Ça m'énerve un peu souvent aussi quand je vois défiler les décisions politiques qui vont
complètement
toujours
dans,
dans le mauvais sens.
Ouais.
Mais, je sais pas, j'ai mis l'enjeu ailleurs, je pense, en fait. Et donc, voilà, je m'éclate dans ce que je fais. Et puis j'ai arrêté de nourrir des espoirs à la con, hein, aussi, tu vois. Plus t'abaisses tes attentes, et plus t'es heureux, en fait. Hein.
C'est clair.
Donc, c'est clair. Voilà. En fait, il faut être stratège. Il faut espérer le meilleur et se préparer au pire. Comme ça, dans tous les cas, t'es un peu prêt, et puis t'es jamais vraiment déçu.
Ouais. Sur le bras, là, j'ai tatoué « No hope, no fear ». Tu vois, ça a été un moment un peu douloureux quand je l'ai accepté de me tatouer ça. C'était en mode, en fait, si t'as trop d'espoir, tu souffres.
Tu seras jamais satisfait.
Tu seras jamais satisfait. Ouais. Et si tu te projettes trop dans l'avenir et que t'as trop de peur, et que t'acceptes pas l'éventualité que tu vas claquer, souffrir, machin, tu
vas
mourir plein de
sans
peur.
Sans avoir vécu.
Exactement. Tu passes ta vie à t'empêcher de vivre pour pas mourir, tu vois.
C'est tellement ça.
Ouais.
Et du coup, moi, je te vois faire l'inverse, tu vois, je te vois vivre à fond et profiter au taquet et faire plein de trucs super géniaux et tout. Et du coup, je trouve que c'est un bon exemple, tu vois.
Pour me lever chaque jour en me disant, je peux crever aujourd'hui.
Ouais, au moins,
je me suis bien éclaté.
C'est clair. Trop bien.
Ouais. Apéro,
c'est l'heure. Merci Clémence.
Merci David.
D'avoir partagé tout
plaisir.
Ça, c'était hyper intéressant. Et je te réinviterai pour parler de tes autres sujets quand tu voudras.
Avec plaisir.
Quand tu seras d'accord.